les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'UNESCO éclatait dans ses murs dès 1963. Une bonne preuve de sa vitalité et du nombre grandissant de pays membres. L'UNESCO, qui avait adopté une convention, acte juridique ratifié, toujours en 1963, par 10 États, plus une recommandation sur les luttes contre les discriminations et les injustices dans l'enseignement. Pour le respect des droits de l'homme, se forgeaient peu à peu des instruments juridiques ayant force de loi. L'UNESCO, qui devait aussi tenter de sauver les monuments de Nubie, dont les temples d'Abou Simbel, menacés par la montée des eaux du Nil suite à la construction du barrage d'Assouan. Voici le magazine de l'UNESCO, diffusé en 1963.
À l'échelle de la planète, le magazine de l'UNESCO.
Voici que se sont éteints les échos de la 12e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Cette session, on le sait, a vu le nombre des États membres de l'organisation s'accroître et atteindre le chiffre de 113. Que fallait-il faire pour contenir ces délégations de 113 États membres? Il a fallu naturellement augmenter le nombre des sièges de la grande salle de conférence. Et pourtant, cette salle a de très vastes proportions, puisqu'elle peut contenir plus de 1000 personnes. C'est en 1958, on s'en souvient, que le siège actuel de l'UNESCO, tout proche de la Tour Eiffel, a été inauguré. Son architecture très moderne, toute de verre et de béton, en fait l'un des ensembles les plus remarquables de Paris. Et chaque année, des milliers de touristes de tous les pays le visitent.
L'UNESCO est aussi classé par ses jardins, ses sculptures, les céramiques qu'il décore et qu'ont signé les plus grands artistes du monde entier. Le jardin japonais est signé de Noguchi. Et nous retrouvons aussi le catalan Miro, l'espagnol Picasso, l'anglais Henry Moore, l'américain Calder. Bref, c'est tout un ensemble d'œuvres qui font de l'UNESCO, en plein Paris, un conservatoire de l'art moderne.
Ce vaste bâtiment, 5 ans à peine après sa construction, est déjà trop petit. De nouveaux locaux sont nécessaires. Mais les servitudes imposées par la réglementation française des monuments interdisaient toute nouvelle construction en surface dans l'enceinte de l'UNESCO. C'est pourquoi la Conférence générale a adopté une solution audacieuse. On construira sous terre.
C'est M. Bernard Zerfus, l'un des architectes de la maison de l'UNESCO, qui a été chargé d'étudier cette solution révolutionnaire. Il s'agit, en somme, de bâtir une cité souterraine d'une capacité, d'un volume égal aux 2/3 des bâtiments de surface.
Comment Bernard Zerfus s'y prendra-t-il pour résoudre ce problème? Il vous le dira lui-même dans une des prochaines émissions de ce magazine.
Si l'UNESCO éclate littéralement dans ses murs, c'est que le secrétariat doit, et de jour en jour, faire face à des obligations qui sont de plus en plus nombreuses. Tous les nouveaux États sont des pays en voie de développement. Et ces pays réclament une aide directe, une aide concrète. Tous ces besoins pressants ont conduit le directeur général de l'UNESCO, M. Maheu, à mettre sur pied un dispositif d'urgence que l'on appelle action opérationnelle. Cette action opérationnelle s'exerce surtout, bien entendu, dans le domaine de l'éducation. Tout le monde en est maintenant convaincu, l'éducation est le plus rentable des investissements. C'est elle qui conditionne les possibilités de développement des États. Il y a 2 ans, lors de la 16e session, l'Organisation des Nations Unies a décidé que les 10 années comprises entre 1960 et 1970 seraient consacrées au développement économique, au développement social, qui intéresse tout particulièrement les États nouvellement indépendants. Une campagne est actuellement menée, elle a pris un nom, la décennie du développement. Dans cette décennie, l'UNESCO a évidemment un rôle considérable à jouer, et ce rôle, c'est celui de l'aide prioritaire à l'éducation.
Monsieur Pierre Couetto, qui est à l'UNESCO le chef de la division des relations avec les organisations internationales, va nous dire quelle part revient à la formation de l'homme dans le développement.
Au cours des dernières années, on s'est aperçu qu'un facteur qui avait été peut-être négligé avait une importance absolument capitale dans toute entreprise de développement, à savoir qu'il ne s'agissait pas uniquement de disposer de capitaux, de disposer de biens matériels, mais qu'il fallait aussi des hommes. Aucune formation spécialisée n'est possible sans qu'il existe une base solide qui est fournie par un système complet et rationnel d'enseignement.
Éducation et développement vont de pair, mais dans le domaine de l'éducation, de nombreux problèmes se posent, comme celui, par exemple, de la discrimination. La Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'Assemblée générale des Nations unies adoptait à Paris il y a bientôt 15 ans au sortir de la guerre, soulignait déjà l'égalité raciale à laquelle il avait été porté atteinte monstrueusement et proclamait dans un de ses articles que toute personne a droit à l'éducation, que celle-ci doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toute nation et tous les groupes raciaux ou religieux. Au terme de sa constitution, l'UNESCO favorise, on le sait, le respect des droits de l'homme, et en particulier le droit à l'éducation et à la culture, sans aucune différenciation quelconque, sans aucune limitation. L'UNESCO, qui avait adopté en 1960 une convention, c'est-à-dire un acte juridique, aujourd'hui ratifié par 10 États, une convention et une recommandation, c'est-à-dire un vœu, sur la lutte contre les discriminations et l'injustice dans l'enseignement, vient de compléter ses textes en décembre dernier en créant une commission de bons offices et de conciliation. Le but de cette commission, c'est de trouver une solution aux litiges qui pourraient naître parmi les États signataires de la Convention. Ainsi, pour le respect des droits de l'homme, se forgent peu à peu des instruments juridiques internationaux ayant force de loi.
Dans les semaines qui viennent, un nouvel effort doit être entrepris pour tenter de sauver les monuments de Nubie, et plus précisément, les temples d'Abou Simbel, menacés par la montée des eaux du Nil, qu'entraînera la construction du haut barrage d'Assouan. Un spécialiste du département de l'information de l'UNESCO, M. Rex Keating, qui est lui-même compétent en matière d'égyptologie, puisqu'il a séjourné pendant de longues années dans la vallée du Nil, a accompli récemment une mission de reportage en Nubie. Il a recueilli au cours de cette mission des documents photographiques exceptionnels qui lui ont servi à illustrer un ouvrage dont il est l'auteur. Ce livre vient précisément de paraître, en anglais, sous le titre « Nubian Twilight, crépuscule de la Nubie ».
Et nous allons demander à M. Keating de nous apporter quelques renseignements sur un sujet que tout le monde connaît sans doute, mais dont bien peu de personnes connaissent vraiment tous les détails, car derrière ces monuments de Nubie, derrière ces images de temples ou de ruines majestueuses, il y a aussi un pays avec ses traditions, avec ses origines. Et c'est de ce pays, qu'il connaît fort bien, que nous allons demander à Rex Keating de nous parler.
La Nubie, pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Et en particulier la région des cataractes, où le Nil a des centaines de petites îles, de sable blanc, des palmes vertes, de buissons tout autour. Et ailleurs, sur les bords, il y a les rochers noirs et les cailloux du désert avec leurs belles couleurs. C'est une beauté peut-être peu austère, mais très impressionnante à cause du silence et de la tranquillité.
Est-ce que vous pourriez me dire par qui est habitée la Nubie? Quels sont ses habitants actuellement?
Les Nubiens sont vraiment un peuple étonnant, laissant peu voir leurs émotions, leurs sentiments, mais très, très hospitaliers. Un peuple dont les traditions remontent très loin dans le passé. Traditions, par exemple, dans le mariage ou dans les funérailles. Je crois même que leurs traditions remontent jusqu'au temps des pharaons. En Nubie, il est impossible de séparer le passé et le présent. Il semble que le temps se soit arrêté. La pensée que tout cela va être détruit est vraiment tragique.
Détruit, mais peut-être peut-on espérer que les efforts de l'UNESCO peuvent parvenir, et dans un assez proche avenir, à sauvegarder au moins une assez large partie de ces trésors de la Nubie.
Malheureusement, il ne sera pas possible de sauvegarder des grandes forteresses, par exemple, les cités, les cimetières, les églises. Elles sont toutes faites d'argile séchée, et sont intransportables.
Vous avez parlé de monuments ou de maisons d'argile séchée, mais les temples, les grands temples.
Ah oui, les temples, ça c'est différent parce que il y a peut-être 23 temples en Nubie construits de pierre. Et ils sont en train de les démonter, c'est vraiment le mot qu'il faut employer, pour le démonter, pour les reconstruire ailleurs. Les magnifiques temples de Philae seront heureusement préservés, car ils se trouvent au-dessous du barrage. Le grand problème, au fond, c'est celui d'Abou Simbel. Ces deux temples énormes sont bâtis dans le roc, et la seule méthode pour les sauvegarder et d'adopter le plan préparé par l'UNESCO, c'est-à-dire de soulever le bloc de montagne où les temples ont été creusés. Le travail, c'est énorme et il doit coûter plus que 30 millions de dollars. Il ne reste que 2 mois pour trouver cette somme. Et il faut dire que si, dans cette période, le problème n'est pas résolu, les générations futures nous considéreront comme des barbares, puisque nous aurons laissé disparaître une telle merveille.
En somme, il nous reste à souhaiter avec ferveur que cette question puisse être résolue.
C'était À l'échelle de la planète, le magazine de l'UNESCO, première diffusion sur Radio UNESCO en 1963. Vous pourrez réécouter ce magazine en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.